Décryptage, Marie Cazadebé.
Monsanto va bientôt disparaître, tout du moins la marque, lorsque le groupe Bayer aura finalisé le rachat du géant des OGM et des pesticides. Le nom Monsanto n'apparaîtra plus, mais son produit phare, le Roundup par exemple, a encore de belles années devant lui. La principale molécule de cet herbicide, le glyphosate, a déchiré les pays de l'Union Européenne l'hiver dernier pour finalement s'imposer dans les champs, 5 ans de plus. Plus récemment, il est passé entre les mailles du filet des députés français. Son interdiction n'a pas été inscrite dans la loi. C'est pourtant une promesse du président Emmanuel Macron. Alors comment le glyphosate parvient-il à résister aux inquiétudes qu'il soulève? Pourquoi continue-t-il à diviser jusque dans les rangs de ceux qui s'accordent à dire qu'il est dangereux? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Stéphane Foucard.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes journaliste au quotidien français Le Monde et vous suivez de près le dossier du glyphosate. Et bonsoir François Larivière.
Bonsoir.
Enseignant-chercheur en communication à l'Université de Lorraine, dans l'Est de la France, et au Centre de recherche sur les médiations, vous êtes penché justement sur la stratégie de communication de l'entreprise Monsanto. Alors avant toute chose, il faut revenir peut-être en quelques mots sur ce qu'est le glyphosate. Je l'ai évoqué, une molécule qui rentre dans la composition d'une centaine d'herbicides, dont le plus connu, le Roundup de Monsanto. On parle, Stéphane Foucard, d'herbicide total. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que c'est une substance qui va tuer tous les végétaux, tout simplement.
C'est-à-dire qu'on les met dans les champs, par exemple, chez nos agriculteurs, pour tuer quel type de végétaux ?
Alors, on l'utilise pour lutter contre ce qu'on appelle les mauvaises herbes, hein, qui font de la concurrence aux cultures. On l'utilise aussi parfois comme dessiquant, c'est-à-dire qu'on l'épand, on le répand sur les cultures elles-mêmes pour accélérer leur dessiccation, en fait, pour prévoir plus facilement les périodes de moisson, ce qui est une utilisation nouvelle et qui occasionne une exposition de la population supérieure aux autres usages du glyphosate. Et enfin et surtout, le glyphosate, c'est la pierre angulaire, en quelque sorte, de tout le business model de Monsanto, dans la mesure où Monsanto commercialise des semences et des pesticides, et les semences qu'il commercialise sont en général génétiquement modifiées pour tolérer le glyphosate. Ce qui veut dire que le glyphosate peut être épandu indistinctement sur de très grandes surfaces et tuer sélectivement uniquement les végétaux qui font concurrence aux cultures transgéniques qui ont été commercialisées, qui ont été plantées par les agriculteurs.
Ça veut dire que quasiment seules les semences Monsanto vont résister aux produits Monsanto.
C'est exactement ça, même si c'est de moins en moins le cas, puisque à force d'avoir été utilisé depuis 1996 aux États-Unis et un peu partout dans le monde d'ailleurs, un certain nombre d'adventices de ces fameuses mauvaises herbes contre lesquelles les agriculteurs luttent ont développé des résistances. Donc voilà, il y a aussi d'autres problèmes qui surviennent, des problèmes agronomiques, du fait de la surutilisation du glyphosate, notamment aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud.
Cette molécule, on la retrouve partout dans le monde, elle est utilisée sur tous les continents.
Elle est utilisée absolument partout depuis une quarantaine d'années, et comme je vous le disais, singulièrement depuis le milieu des années 90 avec le boom des cultures transgéniques, boom qui a épargné en quelque sorte l'Europe, puisqu'en Europe, nous n'avons pas de cultures transgéniques Roundup Ready qui sont actuellement en culture. C'est vraiment essentiellement quelque chose qui concerne majoritairement l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.
Parlons maintenant de sa dangerosité. Il faut le rappeler, c'est important que le sujet ne fait pas l'unanimité. Qu'est-ce que l'on sait en quelques mots de la dangerosité donc de cette molécule, le glyphosate ?
Alors, en mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, qui est l'agence de l'OMS spécialisée dans la classification des agents cancérogènes, c'est l'agence qui fait référence dans la classification, c'est-à-dire dans l'identification du danger cancérogène qui est lié à telle ou telle molécule, eh bien cette agence, le CIRC, a classifié le glyphosate cancérogène probable. Alors qu'est-ce que ça veut dire cancérogène probable ? Ça veut dire qu'on a identifié le fait qu'il est génotoxique, c'est-à-dire qu'il est toxique pour l'ADN. On a identifié un mécanisme d'action par lequel il opère cette génotoxicité, et ce mécanisme d'action, c'est le stress oxydatif. On a identifié avec un haut niveau de confiance, selon le CIRC, qu'il est cancérogène certain sur les animaux de laboratoire. Mais le CIRC dit, et c'est très important, que les preuves épidémiologiques sur les humains sont limitées. C'est-à-dire qu'il y a des études qui sont contradictoires. Et c'est pour ça qu'il n'est que cancérogène probable.
François Larivière, le fait qu'on parle de probabilité, qu'il y ait eu d'autres études avec d'autres méthodologies qui n'est pas forcément amené au même résultat, est-ce que ça compte beaucoup dans le débat aujourd'hui encore sur le glyphosate ?
Alors, effectivement, la probabilité, c'est un élément qui est important, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'à partir du moment où cette étude elle a été mise en avant, il y a eu tout un travail, notamment de lobbying de la part de Monsanto, mais aussi d'une partie de la communauté agricole ou d'une partie des acteurs qui défendent l'utilisation du glyphosate pour montrer que cette étude, elle était minoritaire, et puis aussi pour la critiquer dans sa méthodologie et en mettant en avant que, bien qu'il y ait probabilité, il y ait très peu de certitude pour l'homme et que la plupart des agences sanitaires avaient qualifié qu'il n'y avait pas de risque pour l'homme. Donc effectivement, la probabilité, c'est une limite ici, même si dans tous les cas, ça a eu le mérite de soulever cette question et de ramener nouveau l'enjeu des études sur le glyphosate au premier plan.
Mais est-ce que vous observez que les gouvernements, les autorités de la France, de ses voisins européens, se sont aussi reposés sur ce flou pour appliquer leur politique envers le glyphosate ? Est-ce que ça joue ?
Alors ça joue effectivement, mais disons que ça a été un argument à utiliser, sachant qu'il y a plutôt un consensus dans l'opinion par rapport au rejet du glyphosate. Donc les gouvernements ont pu s'appuyer sur le flou sur par rapport à certaines études et sur la controverse qui est toujours active et qui est toujours très importante autour du glyphosate, mais aussi des produits qui l'utilisent, des molécules qui vont être associées à ce glyphosate. Et ils se sont appuyés sur ça pour justifier auprès d'autres acteurs les interdictions. Donc, en France, du moins, c'est une des justifications qui est utilisée.
En tout cas, dans votre étude de la stratégie de communication de Monsanto et en plus particulièrement de la communication autour du glyphosate, vous parlez bien du poids de l'opinion publique. Elle a beaucoup joué aussi sur les politiques.
Tout à fait. S'il n'y a pas de consensus scientifique, il y a du moins un consensus dans les opinions sur l'utilisation du glyphosate et en partie des pesticides. Il y a un rejet très net de ces produits et une volonté pour la population aujourd'hui et pour la plupart des citoyens de consommer des produits qui n'ont pas, voire de limiter leur utilisation en général dans la société, et ce qui conduit effectivement à ce que les gouvernants prennent en compte cette opinion, majoritairement opposée au glyphosate, pour ensuite appuyer des décisions politiques.
Alors la France a, semble-t-il, quand même du mal à trancher, même si le président Macron a promis sa disparition sous 3 ans. Le projet de loi agriculture et alimentation voté la semaine dernière ne comprend finalement pas l'amendement soutenu par un député de la majorité, Mathieu Orphelin, qui voulait inscrire dans la loi l'interdiction de cet herbicide.
C'est pas pour moi que je portais cet amendement. C'est pour la santé de tous, y compris la santé des agriculteurs. C'est pour l'environnement, mais je trouve que sur le sujet du glyphosate et de la transcription dans la loi de la promesse présidentielle, je trouve que c'est un rendez-vous manqué. J'espère avoir tort dans 3 ans.
La réaction du rapporteur de cette loi maintenant, le député La République En Marche, Jean-Baptiste Moreau, et on en parle ensemble.
Sur le glyphosate, on est complètement d'accord sur l'objectif. Le président de la République s'est personnellement engagé sur ce dossier en expliquant que dans 3 ans, on en sortait et qu'on essayait d'emmener d'ici là nos partenaires européens et que d'ici là, on accompagnait la recherche pour trouver des solutions et qu'on accompagne les agriculteurs pour se sortir de l'utilisation du glyphosate. Et moi, j'ai pas besoin de traduire dans la loi les engagements du président de la République. J'ai complètement confiance à 110% dans ces engagements et je sais qu'ils seront tenus. Donc voilà, c'est pas parce que vous marquez dans la loi que dans 3 ans, vous en sortez que ça va passer plus vite. 3 ans, c'est 3 ans. Dans 3 ans, on en sort, point.
Stéphane Foucart, comment vous comprenez ces deux positions venant de deux députés de la majorité, de La République En Marche, qui peuvent paraître contradictoires ? On est tous d'accord, mais finalement, à quoi bon une loi ?
Alors, d'abord, il faut revenir sur le flou dont parlait François Larivière à l'instant, parce qu'il est fondamental pour précisément comprendre ces divergences de vues. Les avis des agences réglementaires ont fait bien plus que qu'ajouter du brouillage ou du flou à cette histoire, puisque c'est sur leur avis, in fine, que l'autorisation de remettre en circulation le glyphosate a été donnée. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, avait rendu un avis conforme à celui du Centre international de recherche sur le cancer, c'est-à-dire classifiant grosso modo le glyphosate comme cancérogène probable, le glyphosate n'aurait pas pu être remis sur le marché. C'est la loi européenne, c'est le règlement 2009 sur les pesticides qui fait foi en la matière. Le simple fait que le CIRC ait rendu un avis divergent a introduit ce flou. Oui. Mais d'un point de vue strictement réglementaire, ce sont les autorités européennes, c'est l'EFSA et l'ECA qui font foi.
Une étude qui avait soulevé une vive polémique, puisqu'on y retrouvait noir sur blanc finalement une étude faite par Monsanto lui-même.
Absolument. Et la polémique est née du fait que les régulateurs allemands qui ont fait le pré-rapport sur lequel s'est appuyé l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, les experts allemands ont copié-collé toute une partie de leur rapport depuis le dossier d'homologation de Monsanto. Ce qui veut dire que simplement, ils n'ont pas fait, en tout cas pour la partie génotoxicité et puis quelques autres, ils n'ont pas fait le travail d'analyse critique des données. Ils se sont complètement appuyés sur celui qui avait été fait par les experts de Monsanto.
Et pour en revenir à cette loi, si effectivement il y avait moins de flou, cette loi serait passée, comment comprendre que des députés aillent à l'encontre finalement de la politique d'Emmanuel Macron, puisque lui-même dit, promis, dans 3 ans, il n'y aura plus de glyphosate en France.
Alors, je pense que l'interdiction du glyphosate, elle pose des problèmes considérables qui, peut-être, et même sans doute, n'avaient pas été anticipés par Emmanuel Macron quand il a fait ce fameux tweet, à mon avis, un petit peu à l'emporte-pièce, disant, comme ça, le glyphosate serait interdit en 3 ans. Ça pose des problèmes, bien évidemment, pour les agriculteurs qui seraient soumis à une concurrence déloyale, et encore que ça peut se discuter, parce qu'il y a un certain nombre de cultures pour lesquelles on a montré que le glyphosate, en réalité, ne procurait pas davantage, en termes de rendement, davantage économique crucial pour les agriculteurs. C'est moins vrai pour d'autres systèmes agricoles, comme la vigne, par exemple. Mmh. Ce qui est important de noter, à mon avis, c'est que le principal nœud dans cette affaire, c'est une question de commerce international. C'est-à-dire que à partir du moment où vous interdisez aux agriculteurs français d'utiliser du glyphosate, ça veut dire que mécaniquement, vous allez interdire, ou en tout cas restreindre fortement, les importations de tous les produits agricoles qui contiennent du glyphosate.
Ça veut dire qu'on reconnaît une dangerosité telle qu'on n'en veut pas en France, donc si on n'en veut pas en France, on n'en veut pas venant d'ailleurs.
Exactement. Et si on arrête d'importer des tourteaux de soja en provenance d'Argentine ou d'Amérique du Sud, ça pose un problème à une variété d'autres filières, en particulier la production animale, etc., etc. Donc en fait, l'interdiction du glyphosate, elle ouvre une boîte de Pandore dont on ne sait pas trop comment la refermer.
François Allard-Huvert, alors comment vous comprenez la promesse d'Emmanuel Macron? On l'entend au propos de Stéphane Foucart, elle va être difficile à tenir.
Alors en fait, il introduit lui-même un flou, Emmanuel Macron, parce qu'il précise bien, un peu après, qu'il faudra faire des études sur les alternatives. Et c'est un petit peu le moyen qui a été donné de calmer une partie de l'opinion et en partie les instances représentantes du monde agricole, c'est de dire qu'on va faire des études sur les alternatives possibles à l'utilisation du glyphosate, et si on trouve pas de solution, à mon avis, il y aura peut-être une prolongation. Donc c'est peut-être un moyen de se dégager une porte de sortie, parce que, comme le précise effectivement Stéphane Foucart, là, les problèmes qui se posent sont d'ordre international, ils sont pas simplement d'ordre environnemental ou sanitaire, ils sont d'ordre économique et ils sont principalement liés à l'importation des produits et aussi à la place de l'agriculture française dans le monde.
Fin février, dans le journal du Monde, Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie, envisageait déjà des exceptions si dans un secteur ou dans une région, l'abandon du glyphosate était plus difficile encore. Qu'est-ce qui rendrait l'abandon du glyphosate si difficile dans certaines régions ou certains secteurs? Qu'est-ce que ça veut dire, Stéphane Foucart?
Ça veut dire que tout simplement, il y a certaines régions dont l'économie repose plus sur certaines productions agricoles qui sont plus dépendantes que d'autres du glyphosate. Encore que, alors moi je voudrais revenir sur cette histoire d'alternative, parce que le terme est un petit peu piégé. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a énormément d'agriculteurs qui se passent très bien du glyphosate. Tous les gens qui sont en bio, par exemple, n'ont pas de problème pour produire sans pesticides de synthèse, et en particulier sans glyphosate. Maintenant, il est certain que dans certaines productions, sur certains systèmes agricoles, le glyphosate va apporter un petit peu de compétitivité supplémentaire qui va permettre à certains agriculteurs de décrocher des marchés internationaux. Et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut bien évidemment pas nier, hein. C'est quelque chose de réel.
C'est l'argument d'ailleurs de la FNSEA, l'Organisation Agricole Française, et aussi les associations de céréaliers qui, en 2017, mettaient en garde contre une hausse des coûts de production. Est-ce que la France pourrait vraiment souffrir de la concurrence des pays qui vont continuer à utiliser du glyphosate?
À l'évidence, encore une fois, sur certains types de cultures, c'est clair. Sur d'autres, c'est beaucoup moins clair. Il y a des études, par exemple, qui ont été publiées par des chercheurs du CNRS et de l'INRA en grandeur nature et qui ont montré que, par exemple, sur le blé d'hiver, eh bien, le glyphosate ne faisait presque pas de différence en termes de rendement, y compris de rendement économique à l'échelle de l'exploitation.
Alors, quand on parle d'alternative, pour vous, c'est pas un argument. On ne reste pas trois ans pour, je sais pas, découvrir une nouvelle molécule
qui
serait moins dangereuse.
Justement, le terme alternative, en fait, à quoi est-ce qu'on pense spontanément quand on parle d'alternative au glyphosate? On parle d'un herbicide, d'une molécule herbicide qui produirait les mêmes effets et qui aurait des profils toxicologiques ou de sûreté environnementale supérieurs.
Elle existe.
Aujourd'hui, elle n'existe pas et il est peu probable qu'on réussisse à en mettre une au point dans les prochaines années.
La concurrence au sein même de l'Europe, elle pourrait exister hein, puisque l'homologation a été renouvelée pour 5 ans au niveau européen. C'était l'hiver dernier, le vote de l'Allemagne qui jusque-là s'était abstenu a fait pencher la balance. Écoutez la réaction de Nina Kazemic de l'ONG allemande Lobby Control.
Je ne dispose pas de preuves concrètes, mais je sais que de grandes entreprises, parmi lesquelles Bayer, bien sûr, se sont rapprochées du gouvernement pour faire valoir leurs intérêts. Et je sais aussi que le lobby des agriculteurs joue un rôle très important en Bavière. Ces derniers veulent continuer à utiliser le glyphosate et ils sont très proches de la CSU.
Nicolas Hulot, le ministre français de l'écologie, avait aussi pointé du doigt le poids des lobbies. Monsanto, lobby, on a l'impression que c'est deux mots qui vont très souvent ensemble. Stéphane Foucault, est-ce que c'est vraiment une question centrale dans le dossier du glyphosate ?
Ah oui, je pense que c'est une question qui est tout à fait centrale, mais c'est pas ce qui est central, ça n'est pas forcément le lobbying dont on a pu être témoin ces derniers mois à l'Assemblée, ou visant tel ou tel parlementaire, rédigeant tel ou tel amendement à destination de tel ou tel groupe politique. À mon avis, le lobbying qui a vraiment pesé dans cette histoire de réhomologation du glyphosate, c'est un lobbying scientifique, c'est-à-dire c'est un lobbying qui est beaucoup plus discret et qui se pratique bien en amont de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. C'est un lobbying, en réalité, c'est plus des relations publiques qui vont permettre des relations publiques et puis une forme d'instrumentalisation de la science et de la science réglementaire qui va précisément permettre de mettre en avant devant le régulateur telle étude plutôt que telle autre et d'exercer des pressions qui vont aboutir finalement à ce que les agences réglementaires, en particulier l'EFSA, classifient ce produit comme non cancérogène.
François Allard-Huvert, vous avez étudié justement cette stratégie. C'est jamais au nom de Monsanto que les pressions se font?
Mais non, tout à fait. C'est une stratégie de communication classique hein, et qui appartient à la communication sur les sujets sensibles. C'est d'utiliser d'autres acteurs pour faire votre publicité ou du moins défendre vos arguments à votre place. Hein. Ça peut être des lobbyistes qui vont ensuite effectivement contacter des députés, hein, que ce soit des députés français ou des députés européens. Mais ce qui est plus subtil et ce qui a été fait depuis de nombreuses années et qui a été très bien documenté, hein, notamment dans les Monsanto Papers, hein, par Stéphane Foucault, aussi c'est cette question d'utilisation de scientifiques qui vont produire à leur tour des contenus ou qu'on va inviter à produire des contenus pour décrédibiliser d'autres scientifiques. Donc là, on va instrumentaliser des scientifiques contre d'autres scientifiques dans l'idée de masquer le plus possible Monsanto ou d'autres acteurs. Hein, mais là, c'est une question de transparence qui est très nette.
Stéphane Foucault, vous vouliez ajouter un mot? Je voyais prendre quelques notes.
Oui, il y a un travail qui se fait bien évidemment en direction de la communauté scientifique hein, et de la manière dont sont construites les connaissances à propos de ce fameux glyphosate. Mais il y a aussi un travail qui est fait dans l'opinion, c'est-à-dire qu'il y a, on sait par exemple à partir des documents qui ont été rendus publics dans le cadre d'un procès, hein, le fameux procès aux États-Unis qui a produit ces Monsanto Papers, ces documents internes de la firme. On sait que par exemple Monsanto a un programme qui s'appelle Let Nothing Go. Ne rien laisser passer, et qui consiste à rémunérer, par le biais de tierces parties, d'organisations tierces, hein, qui n'ont pas de lien immédiat, direct, visible avec l'entreprise, de rémunérer des internautes, des gens qui vont aller chaque fois, mécaniquement, systématiquement, contester tous les billets de blog, les posts Facebook ou sur Twitter, toute mise en cause de la sécurité, de la sûreté des OGM, d'une manière générale, ou des produits de Monsanto.
François Allard-Huvert, il nous reste juste quelques secondes. Est-ce que la disparition du nom Monsanto, c'est une bonne chose, une mauvaise chose pour le glyphosate? Est-ce qu'il va encore plus résister?
Je pense qu'il va continuer à résister, mais et que derrière ça, Monsanto changera. Hein. Une hydre à plusieurs têtes. Hein. Il va changer de tête, mais il restera toujours là.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, enseignant-chercheur en communication à l'Université de Lorraine. Merci Stéphane Foucault, journaliste au Monde. Et merci à Éléonore Krenik, Laurence Sarniguet, Cécile Rogue, Simon Carteret, Fabrice Viollet à la réalisation.